I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les nouveaux Macs seront-ils touch sur leur écran? Les IA doivent-elles rédiger des articles? Est-ce que Prime a fait une OPA sur HBO? Et plein d'autres sujets, c'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans les Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, il n'y en a qu'un, le seul, unique. Tout comme moi, je suis Patrick Béja, le seul, unique. Non, c'est pas vrai, il y en a d'autres dans le monde. Mais le seul qui soit podcasteur soutenu par ses auditeurs. C'est vous qui me soutenez, comme par exemple, au hasard, ceux qui ont rejoint l'émission cette semaine ou la semaine dernière. Hervé, Rikian, Cédric Stanus, Waka TP, Christian J. Bochon, Grish Kaon et les producteurs Raph et Olivier Maury, et une mention spéciale que vous devez écouter parce que ça va vous faire du bien et ça va améliorer votre santé. Il semblerait que certains, comme par exemple Julien, aient commencé à courir de plus en plus pour écouter les podcasts. Ce qui veut dire, bon, en plus, il va souvent sur mangerbouger.fr pour avoir toutes les informations sur la nutrition saine, mais grâce aux podcasts, il est en meilleure forme, en meilleure santé, il est plus beau. Je vous dis depuis longtemps que les podcasts, ça rend plus beau, en particulier les miens. Mais les podcasts, ça rend plus beau. Ben voilà, on a la preuve. Vous courez plus parce que vous voulez écouter les podcasts. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse des podcasts beaucoup plus longs du coup. C'est l'épisode 496. On arrive bientôt aux 500. On est en janvier 2023. Il faudrait qu'on fasse un podcast de 3 heures, au moins, pour que vous couriez beaucoup. Marion, est-ce que tu es partante? Salut, comment ça va? Bonne année. C'est la première fois que je te parle dans l'émission. Cette année,
mais podcast bonne de 3 heures. Bonne année. Alors, podcast de 3 heures, écoute, je me suis mis à écouter les podcasts en courant, mais alors je suis pas sûre d'arriver à tenir 3 heures ou 4 heures là, tu vois. Si je fais une heure, je trouve ça déjà très bien comme but. Donc je trouve que justement le rendez-vous tech, c'est la durée parfaite.
Très bien. Bon bah on va rester sur une heure environ alors. Parfait. Jérôme, comment vas-tu? Jérôme Marin est de retour avec nous aussi. Vous étiez là tous les deux il y a 2 ans presque au jour près. Dans l'émission,
ah là là.
C'est incroyable. Jérôme, est-ce que toi, tu cours en écrivant ta newsletter?
Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est du travail, mais on prend le... Il faut s'habituer, mais ça va vite après.
Très bien. En même temps, il y a des gens qui ont des tapis de marche, donc c'est un petit peu ça. Tu pourrais le faire.
Je ne devrais plus.
Ouais,
c'est une question de volonté. C'est une bonne résolution pour 2023.
Exactement. Exactement. Pour la bonne résolution 2023, c'est on écoute les podcasts en courant et on écrit sa newsletter en courant aussi. Comme ça,
on s'abonne à ma newsletter surtout.
Mais bien sûr. Bah redis-nous, on vous le dira en fin d'émission, mais redis-nous où on la trouve.
Cafetech.fr.
Voilà. Cafetech.fr pour s'abonner à la newsletter de Jérôme Marin. Sur Twitch, puisqu'on est en live, bien sûr, vous pouvez regarder les vidéos en replay sur la chaîne YouTube spéciale pour ça, mais on est en live et on me dit la qualité TV, la qualité vidéo et son, c'est nickel sur une télé. Vous pouvez nous regarder sur la télé. Et j'ai une nouvelle webcam. J'ai une Elgato Facecam Pro qui est la première webcam. Je vous dis que j'adore le matériel Elgato. Ils ne veulent même pas me sponsoriser. Je vais les voir toutes les 2 minutes. Je leur dis, eh, vous voulez pas... Non, ils s'en foutent parce que je parle d'eux de toute façon. Eh ben, la webcam, elle est presque qualité caméra normale. Elle coûte un peu cher, mais elle est super bonne qualité. Et ça, je suis content que ça se ressente. Et si on parlait de tech plutôt que de toutes nos histoires, il y a des sujets super intéressants. Et je vous propose qu'on les aborde tout de suite. Et comme... Je suis à la maison. Vous savez quoi? Quel bonheur! Les auditeurs vont sauter de joie parce qu'il y a le retour des jingles. Un peu trop faible le son là. Donc je le remonte un peu. Vous voulez des jingles plus forts? Dites-le moi dans les commentaires. Laissez un pouce bleu et un like sur le podcast. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Premier gros sujet, il y a une petite surprise qui nous a pris par surprise la semaine dernière, c'est l'OPA que Amazon Prime a fait sur HBO. Alors, c'est pas HBO partout dans le monde, mais en France, vous savez que HBO réservait ses programmes à OCS, la chaîne d'Orange. OCS se retire du marché, en partie parce que HBO ne lui accorde plus ses programmes, et on se demandait qui allait récupérer tout ça, en partie parce qu'une série importante commence à commencer cette semaine, The Last of Us, et en fait, sans aucun préavis, sans que personne ne soit au courant, c'est Amazon Prime qui récupère les contenus de HBO. Alors, la série The Last of Us, qui est très très bien d'ailleurs, hein, je vous la recommande, même si vous n'avez pas joué au jeu, c'est le premier épisode est vraiment excellent. La série est disponible pour tout le monde, mais il y a en plus de ça une chaîne HBO Max qui sera disponible bientôt pour tous les contenus HBO, en plus de votre abonnement Prime sur Amazon Prime. Vous savez qu'on peut s'abonner à différentes chaînes en plus. C'est un gros coup pour Prime. Alors, en France spécifiquement, ils n'ont pas les contenus de HBO partout. Mais c'est un gros coup. Et puis, ça déstabilise un petit peu le... On dit le PAF, non ? Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ce genre de choses. Le panorama audiovisuel français. J'imagine que Canal+, n'est pas content. Je ne sais pas si on peut parler en leur nom. Mais je peux imaginer qu'ils ne sont pas super contents de ce qui se passe là. C'est un gros concurrent à Canal+. Et c'est un gros coup pour Prime. Encore plus de force et de puissance pour Amazon. Vous allez vous abonner à HBO sur Prime. Marion, toi qui rêves de regarder, je ne sais pas moi, Westworld. Ou non, c'est
déjà vu.
Westworld. D'accord.
The Last of Us, déjà vu.
D'accord. C'est bien, non ?
Ouais, franchement, on a regardé le premier épisode hier, on était à fond. Franchement, très très bon premier épisode, vraiment.
Oh, d'accord.
Et j'ai pas joué aux jeux vidéo, donc c'est tout à fait regardable sans avoir joué aux jeux vidéo. Et on peut apprécier. Mais oui, gros coup. Alors, est-ce que je vais m'abonner ? Je sais pas, mais par contre, on est en train de reconsidérer notre abonnement Canal+.
Hey,
effet rebond. Parce qu'en fait, on a pris un abonnement Canal+, package, en gros, on a un abonnement Canal+ qui a Netflix, OCS, et donc il y avait HBO parce que HBO était sur OCS avant. Et là, en fait, on est en train sérieusement de se poser la question parce que on a fini les espèces de promos de notre première année d'abonnement Canal+ qui nous rendaient le prix intéressant. Et en fait, maintenant, HBO, qui était les séries qu'on adorait suivre avec Euphoria et compagnie, d'ailleurs, je ne sais pas si Euphoria est encore disponible sur Canal+, si ça part ailleurs, on va vraiment se poser la question et on va se poser la question de l'intérêt de garder Canal+, parce qu'en fait, on ne regarde pas tant de films. Enfin, on n'est pas à la recherche du dernier film le plus récent disponible sur la plateforme. C'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ça nous embête pas d'attendre un petit peu plus longtemps pour la chronologie des médias. Donc en fait, on se pose la question d'arrêter notre abonnement Canal+. Ouais.
C'est ça le cœur de la production audio-vidéo aujourd'hui. La motivation, en tout cas pour les services de streaming, beaucoup plus que les films, c'est les dernières séries du moment dont tout le monde parle, les séries événements. Et donc, non seulement parce que, bon, on parle de The Last of Us parce que c'est l'actualité du moment, mais les séries HBO, dans un monde de streaming dominé par Netflix et les consorts, HBO a su rester la maison de la qualité, en quelque sorte, avec un certain nombre de séries vraiment appréciées et dans une autre ligue presque que ce qu'on peut voir ailleurs. Et donc, le fait qu'il n'y aura plus le contenu HBO, certains étaient dispo sur Canal+, comme par exemple Tokyo
House
Vice.
Of the Dragon.
House of the Dragon, Tokyo Vice qui est super, super bien. Bah oui, ça peut faire reconsidérer les choses à certains. Jérôme, je ne sais pas si toi, tu es abonné à Canal+, mais ça pourrait t'impacter aussi, j'imagine.
Moi, je pense qu'en fait, on fait un peu trop de... On pense que l'effet est un peu trop fort, quoi. Pour moi, je ne pense pas que ça va avoir un effet très important. Déjà, OCS avait très peu d'abonnés sur Canal+, comparé au parc d'abonnés. Donc, la très grande majorité des clients Canal+ n'avaient déjà pas accès aux séries d'HBO de toute façon. Et surtout, aujourd'hui, c'est complémentaire, en fait. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui vont arrêter de s'abonner à Canal+, il y a certaines personnes qui ont arrêté de s'abonner à Canal+ pour aller sur Netflix ou Amazon. Mais de plus en plus, c'est des abonnements qui sont complémentaires. Canal+, ça va être plus pour le sport aujourd'hui qu'on va s'abonner. Et Amazon maintenant a le foot aussi en France. Mais je pense pas qu'il y ait vraiment forcément un effet très important. Alors oui, c'est très symbolique en fait des ambitions d'Amazon et du fait que la télévision change aujourd'hui, qu'une grande chaîne comme HBO, déjà aux États-Unis, lance sa plateforme de streaming, donc HBO Max, qui est disponible dans beaucoup de pays, qui devait être lancée en France finalement, mais comme il y a un changement de direction chez HBO, ils ne l'ont pas lancée en France en 2024. On savait déjà qu'ils n'allaient pas continuer avec OCSA, on le savait. Et donc, la logique, c'était qu'ils continuent avec Canal+. Mais le fait qu'Amazon récupère les droits, c'est plus un symbole du changement de paysage que, à mon avis, l'impact ne sera pas forcément immédiat et très important pour Canal+, en tout cas en termes d'abonnés.
C'est vrai que symboliquement, c'est fort. Ça a peut-être plus d'impact chez nous, les geeks, qui sommes un peu moins, enfin, très friands de ce genre de service. Le deal semble être jusqu'en 2024. À ce moment, Max, la nouvelle version d'HBO Max, devrait être lancée un petit peu plus largement. Nous, en Finlande, on a déjà HBO Max et ça marche très, très bien. Mais oui, peut-être qu'on a une sorte de loupe déformante qui nous fait grossir à nos yeux l'importance du truc. Je pense quand même que... Ouais, vas-y.
Il ne faut pas oublier que Canal+ a Disney+, et a le nouveau Paramount+, qui vient d'être lancé. Alors, je ne sais pas si ça va marcher en France, mais en tout cas, au niveau des offres de streaming, ils ne sont pas, ils sont pas sans rien, en fait. Et ils ont déjà Netflix, comme Marion a Netflix dans des offres. Bon, après, je ne sais pas si beaucoup passent par Canal+ pour avoir Netflix. Mais en tout cas, il y a quand même un package qui est offert aujourd'hui. Alors oui, ils ont perdu HBO Max, ils ont perdu les séries d'HBO, mais je ne sais pas si ça va impacter vraiment en termes d'abonnés.
Oui, bon, je suis assez d'accord avec Jérôme. Je pense que ça va vraiment impacter les personnes qui ont pris les abonnements Canal+, principalement pour les séries. Je ne suis pas sûre que ce soit la majorité des abonnements Canal+, aujourd'hui en tout cas. Donc moi, je me pose la question, on se pose la question, nous, parce qu'on regarde principalement des séries et on avait pris ce pack parce qu'il y avait HBO dans OCS et parce qu'il y avait Netflix. Mais je pense qu'on est plutôt niche.
Bon, bah on verra à suivre sur les mois et les années à venir. On va reparler un petit peu d'intelligence artificielle avec évidemment OpenAI. Il y a, alors, de la même manière que toutes les news étaient sur Twitter et Elon Musk, même si on va en parler un petit peu plus tard, pendant ces derniers mois, là, depuis deux ou trois semaines, toutes les news sont sur une forme d'intelligence artificielle et des sujets liés à l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs sujets que je voudrais évoquer aujourd'hui. Et le premier d'entre eux, je ne sais pas si je vais peut-être en lister plusieurs, mais l'un des plus importants, là encore symboliquement, parce que ce n'est pas forcément la première fois, mais là, ça a fait un peu plus de bruit, c'est que CNET, le site d'ActuTech, a testé depuis novembre l'écriture d'articles par intelligence artificielle. Alors, encore une fois, ce n'est pas tout à fait les premiers, mais ils l'ont fait depuis novembre sans prévenir qui que ce soit, et ils vont clarifier la chose, ils vont dire que désormais certains articles, enfin les articles écrits par intelligence artificielle sont écrits par une IA, enfin sont assistés par une IA et revus par des journalistes, ce qui est déjà le cas, et certains types d'articles spécifiquement, hein, des choses comme des données financières, ce genre de choses, ce genre de sujets. Là où c'est important, c'est que c'est une des choses dont on parle depuis longtemps, et on dit, ah, un jour, les IA écriront des articles, et bien là, c'est localisé, mais encore une fois, comme on va le dire souvent, on est à GPT-3, hein, pour, là encore, symboliser l'évolution du truc, imaginez ce que ça sera à GPT-20, mais c'est localisé, et ça veut dire que l'IA peut écrire les articles revus par une personne, là où il aurait fallu, pour le même nombre d'articles, peut-être 3, 4, 5 personnes pour produire la même quantité de contenu. Et donc, ça affecte le travail très précisément, très littéralement des journalistes. Alors, il se trouve qu'on a un journaliste ici dans l'émission. Ça pose plusieurs questions. Il y a une question d'éthique, d'information des lecteurs, le fait qu'on veuille savoir qui a écrit l'article et si c'est une IA ou pas, etc. Il y a aussi la question du travail. D'une manière générale, je suis curieux de savoir, Jérôme, ce que tu penses de cette tendance. Est-ce que tu penses que c'est important, que ça va grandir? Enfin, on en parle beaucoup en théorie. Là, on a une application concrète. Qu'est-ce que ça t'évoque, du coup, Jérôme?
Alors déjà, ça existait déjà depuis longtemps. AP, donc Associated Press, qui est la grande agence américaine, qui est un peu l'AFP américaine, fait ça depuis longtemps pour les résultats financiers d'entreprises, qui sont des... alors moi, j'en ai écrit quand j'étais jeune, donc c'est très rébarbatif, c'est toujours la même chose. Ils ont fait tant de chiffres d'affaires, ça a augmenté de tant de pourcents, ils ont perdu de tant d'argent et ça a augmenté de tant de pourcents, voilà. Ou pour les résultats d'élections aussi. Je sais que, par exemple, Le Monde, je crois, le fait aussi pour les résultats d'élections, les résultats locaux. Alors, pour les choses comme ça, ça me dérange pas, en fait. Je trouve, parce que c'est vrai que le journalisme n'apporte rien, finalement, de valeur ajoutée. Et si, comme fait AP, c'est de dire on fait ça parce qu'on va mettre les journalistes sur des choses qui sont plus à valeur ajoutée, où ils peuvent porter leurs pattes, ils peuvent apporter quelque chose de plus, voilà, pourquoi pas. Après, si on commence à le cacher, si on commence à remplacer des journalistes par des choses comme ça, et là, je suis en train de regarder sur CNET, c'est quand même plus que des simples résultats d'élection. Ouais. Alors là, je vois qu'ils ont quand même bien mis que maintenant que c'était écrit par une IA et que c'était... Et même, ils ont mis qu'ils vérifiaient le contenu maintenant.
Ouais. Alors, c'est un site qui a sorti le loup, qui a fait un truc avec le loup. Et donc, CNET a répondu ensuite, après coup, après que le... Alors, c'est un mini-scandale, hein, mais après que le sujet soit sorti, au début, ils ne le faisaient pas. Mais oui, effectivement, maintenant, ils disent qu'ils vont le faire et c'est plus large que ce qui était fait par le passé. Mais tu ne penses pas que si ce genre de pratique devient commune, forcément, ça va affecter le travail des journalistes. On dit donc ils vont pouvoir se concentrer sur des trucs à plus forte valeur ajoutée. Mais en même temps, si une rédaction a besoin de moins de journalistes pour produire ces contenus-là, au bout d'un moment, ils ne vont pas payer des journalistes pour le principe. Encore que, si le contenu devient débitable très facilement, tout le monde va pouvoir en faire et il faudra une valeur ajoutée différente, comme le font certaines publications déjà aujourd'hui, comme le Financial Times, Bloomberg, etc., qui engagent des journalistes bien payés pour faire des trucs de fond pour se différencier de la masse de juste retweetage de news. Donc, peut-être qu'il y a un truc à explorer là-dessus.
Mais en fait, c'est un peu déjà le cas parce qu'aujourd'hui, la plupart des médias reprennent les dépêches AFP, ce qui ne tu différencies pas avec les dépêches AFP. Donc, pour se différencier, pour faire payer les gens, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que la presse essaye de faire, c'est de faire payer les gens, il faut faire des choses à part, un peu différentes. Donc, à la limite, moi, je ne sais pas, il faut voir comment ça se passe, mais je pense que les patrons de presse vont dire ça, vont dire, voilà, tout ce qui ne rapporte rien aujourd'hui, ça va être gratuit, on va utiliser une IA, donc ça nous coûtera moins cher, et on va utiliser des journalistes pour faire des choses plus intéressantes. Après, il y aura toujours la tentation de dire, bon, on va embaucher moins de journalistes. Malheureusement, je crois que c'est déjà le cas, quoi. Enfin, c'est un peu une évolution naturelle. Ça pose un peu la question de, voilà, qu'est-ce qu'un journaliste, est-ce que le journaliste qui reprend une dépêche AFP, qui fait juste du copier-coller, est-ce que c'est un journaliste, est-ce qu'il apporte quelque chose ou pas aujourd'hui?
Ouais. Voilà, donc, on appelle d'ailleurs dans les catégories de journalistes, il y a aussi les newsers, je ne sais pas si ça se passe dans
c'est
les
ça.
Voilà. Et c'est une catégorie spécifique et c'est généralement pas le travail que les journalistes vont aller rechercher en priorité.
Bien sûr, pour expliquer aux gens, enfin, je ne sais pas si tout le monde sait, le travail c'est on a une dépêche AFP, donc une dépêche AFP, l'agence France Presse qui fait un article, on fait un copier-coller, on change de titre, on met peut-être un chapeau et c'est tout quoi.
Ouais.
On envoie ça et on signe à l'AFP ou avec l'AFP. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est une grande partie de la production des médias en ligne parce qu'il faut faire du volume, il faut faire des pages vues. Et donc, ça peut être très, très facilement remplacé par une IA. Après, est-ce qu'une IA peut remplacer des journalistes pour faire des papiers à valeur ajoutée? Potentiellement, parce qu'on voit aujourd'hui que ChatGPT peut faire des choses très fortement à valeur ajoutée. La seule question, c'est est-ce que c'est fiable, en fait?
Ouais,
aujourd'hui, ça ne l'est pas.
Bah justement, on a d'autres sujets dans le domaine de l'IA. Et effectivement, tu as complètement raison. La question, c'est est-ce que c'est fiable? Enfin, il y en a plusieurs. Moi, ce que j'aime bien, c'est penser à, comme je le disais tout à l'heure, ce qui se passera dans 5 ans, 10 ans, 20 ans avec ce genre d'outils. Mais il y a des questions qui se posent aujourd'hui. L'une d'entre elles, c'est est-ce qu'il faut les interdire à l'école? Il y a un article intéressant, un éditorial de Kevin Roos au New York Times qui dit... Ça sert à rien de bannir les intelligences artificielles à l'école pour trois raisons. D'abord, vous pourrez pas. Comment faire pour bannir l'utilisation de l'intelligence à l'école? C'est impossible. Enfin, l'utilisation de l'intelligence à l'école. L'utilisation de l'intelligence artificielle pour faire des devoirs. Le lapsus. Non, pour faire ses devoirs, le ChatGPT est utilisé partout, les gens vont être malins et l'utiliser de manière intelligente. Bref, même si on peut repérer, c'est compliqué. Mais les autres arguments sont plus intéressants. Il dit que ça peut être des outils d'éducation hyper intéressants, utilisés par le professeur. Et encore plus, bon, je vous résume en deux mots, hein, l'article sera dans la newsletter, mais le dernier argument est encore plus important, c'est que l'intelligence artificielle, encore une fois, dans 2 ans, 3 ans, ce genre d'intelligence artificielle générative, bah, elles seront partout. Et elles seront dans le monde professionnel, dans la vie adulte. Et donc, le bannir, bah, ce n'est pas rendre service aux élèves. Alors après, ça pose toutes les questions. Est-ce qu'on peut utiliser des calculatrices? Est-ce qu'il faut apprendre le calcul à la base et puis ensuite on se sert des trucs? Est-ce qu'il faut lire des livres ou est-ce qu'on peut juste utiliser l'Internet pour tout trouver? Bon, culture générale, etc. Il y a mille questions et c'est des questions éternelles dans l'éducation. Mais je pense que cette approche qui dit... Notre première réaction à ChatGPT à l'école, c'est genre « Oula, merde, ils vont tricher pour leurs devoirs !» Je trouve que cette réaction est aussi intéressante de dire « Calmez-vous, c'est un outil, il faut bien s'en servir, mais bannir, c'est pas forcément la bonne solution. » J'ai trouvé ça intéressant. Et puis, il y a aussi un trio d'artistes, enfin trois artistes, qui ont lancé un procès en... comment on dit procès de masse, procès à plusieurs, n'importe qui peut...
Class action.
Class action, oui, je cherchais le terme français, je sais qu'il existe.
Je ne sais plus en français d'ailleurs.
Contre Stability AI, Midjourney, DeviantArt, parce que, vous savez, on en parlait ces derniers mois, ces outils d'intelligence artificielle générative d'images peuvent, action de groupe, merci beaucoup à la chatroom, peuvent être utilisés pour reproduire un dessin ou une image dans le style d'un artiste spécifique. Et donc là, les artistes en question, alors il y en a trois, peu importe leur nom, mais elles ont lancé un procès. Le texte de la plainte n'est pas parfait, mais ça risque de commencer à lancer ce processus de génération justement de lois ou de réajustement des lois pour faire rentrer les IA génératives dans le cadre de la loi. Et c'est important qu'on se pose cette question parce que forcément, ça change les choses et il faut se pencher dessus. Et bien là, ça risque d'être l'un des premiers procès qui va vraiment nous permettre d'étudier la question d'un point de vue légal. J'aimerais aussi parler de ChatGPT utilisé comme maître de jeu dans un jeu de rôle. Il y a une requête qui a été partagée par notre ami Corben, qui vient du Discord de ChatGPT, qui fait un gros paragraphe, ou deux ou trois paragraphes, qui est vraiment très courte, mais qui formate l'interaction avec ChatGPT à la manière d'un jeu de rôle complètement ouvert et infini, c'est-à-dire que ChatGPT devient votre maître de jeu et vous pouvez faire à peu près n'importe quoi dans ce jeu de rôle qu'elle vous donne. Et c'est un truc qui marche super bien. Le fait que ça vienne simplement, ce n'est pas un programme qui a été écrit, une IA qui a été spécifiquement designée pour ça, c'est simplement une requête dans le ChatGPT existant qui dit des choses comme « Alors, tu commences ta réponse par... tel type de phrase, tu donnes tant d'options et tu ne réponds jamais autre chose que ça et puis tu proposes tel et tel truc. » Et en plus, on intègre des illustrations générées en temps réel par une autre IA qui va être intégrée à tes réponses. Donc, on dit ce qu'on fait, ils nous disent ce que ça donne, on dit ce qu'on fait, ils nous disent ce que ça donne, ils nous donnent quelques options ou une option libre. Ça marche incroyablement bien. Ça aussi, ça sera dans la newsletter, vous pouvez aller essayer vous-même, mais c'est... encore un truc qui me surprend énormément dans l'utilisation des IA. J'en parlerai, peut-être que je vous ferai une lecture dans l'after show pour les Patriotes de ça et d'un autre truc que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé d'écrire un mail passif-agressif sur une mauvaise lecture de contrat. Et il l'a fait, et après, ça, c'est parti dans des histoires de mon platypus est malade, mon animal de compagnie platypus est malade, donc je suis déprimé. Il me donne des conseils pour aller mieux. Enfin, je vous lirai ça, c'est super marrant. Mais donc, sur ces sujets, bannir ChatGPT à l'école, les procès qui vont commencer, ou si vous avez testé cette IA, cette version jeu de rôle, je suis curieux de savoir si ce que vous en pensez. Peut-être que Marion peut nous dire, je sais que tu as testé un tout petit peu le jeu de rôle, toi aussi. C'est incroyable, non ?
Ouais, c'est assez rigolo de voir comment il peut fonctionner et quand même faire sortir du texte lambda. C'est vrai que moi, j'avais utilisé principalement pour générer du texte simple. Là, il va aller chercher une image, enfin, il va générer une image, etc. Après, moi, je l'ai trouvé... Après, c'est normal, c'est un test, mais en tout cas, l'introduction du jeu assez pauvre, il m'a répété la même image sur deux étapes différentes. Il m'a fait la même introduction de phrase sur deux étapes. Et ouais. Donc, en fait, j'ai arrêté rapidement.
Tu vois vite les bords et les contours du truc, ouais.
Oui, voilà. Et puis après, je trouvais qu'il n'y avait pas assez. Tu vois, il n'y avait que trois choix et le dernier choix, c'était toujours le même. Et donc, je trouve ça assez limité.
Mais alors, le dernier choix, c'est le choix ouvert. Et c'est celui que j'ai beaucoup utilisé. Tu peux lui dire ce que tu veux, en fait.
Moi, au début, j'ai fait le jeu dont vous êtes le héros ou le livre dont vous êtes le héros et j'ai juste choisi un, deux, etc. Mmh. Tu vois, je voulais voir où est-ce qu'il allait m'amener et c'était assez, assez léger ou assez simple pour commencer. Mais c'est que le début et c'est qu'un exemple de prompt et je trouve ça assez impressionnant juste avec ça, juste avec ce court texte. D'arriver à développer quelque chose comme ça. C'est assez fascinant à tester. Hein. Franchement, j'encourage tout le monde à tester juste par curiosité pour voir les capacités du mini-jeu de rôle.
C'est ça qui est particulièrement impressionnant. Je trouve que c'est vraiment dans le chat tel qu'il existe. On lui fait une requête détaillée en disant « tu dis ça, tu dis ça, tu le dis comme ça, tu fais comme ça ». Et ça transforme l'interaction chat qu'on connaît maintenant depuis plusieurs semaines en interaction ludique type jeu de rôle, même si, encore une fois, c'est un habillage sur un truc qu'on connaît déjà, juste avec cette requête, qui n'est pas très longue, hein, encore une fois, elle doit faire, je sais pas, trois paragraphes, ça, c'est presque un programme en no-code, écrit en texte bien compréhensible, en texte de conversation, qui transforme l'utilisation du truc. Ça, c'est le plus impressionnant, quoi. Bon, et sur la question de l'école, faut-il bannir ChatGPT ? Vous devez décider. Aujourd'hui, je vous nomme tous les deux co-ministres de l'éducation. Est-ce que vous bannissez ChatGPT ou pas dans l'éducation nationale ?
Tu peux le bannir, mais comment tu vérifies que les élèves n'utilisent pas ? C'est ça aussi la question.
Oui, il y a cette limitation. Moi, je suis plutôt de ton avis, Patrick. C'est-à-dire, on a vu ça avec Encarta, avec n'importe quel type de Wikipédia. C'est vrai que j'ai cité Encarta, ça fait un peu vieux, mais Encarta, Wikipédia.
Non, mais c'est à l'époque, c'est vrai, on l'a vu à l'époque avec cette.
C'est vrai, moi, quand j'étais petite, c'était Encarta. Voilà. Et puis, on nous critiquait parce qu'on disait, c'est plus facile que de chercher dans les encyclopédies et dans la bibliothèque. Ouais, enfin, ça revient au même. Tu fais des recherches, il faut juste croiser tes sources pour vérifier que l'information est juste, et c'est vrai que tu as moins cette garantie avec Wikipédia, mais ChatGPT, finalement, ce qui est intéressant, c'est justement t'assurer de la véracité de l'information, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que ça va simplifier l'aspect brouillon, la peur de la page blanche. Finalement, tu peux passer ça relativement facilement grâce à ChatGPT et après, itérer et aller fouiller et améliorer le texte, qui est un peu plus facile que de le pondre rien. Donc ça, je trouve ça intéressant et ça va pousser peut-être les élèves à amener plus de valeur sur le fond que sur la forme, même si on s'intéresse beaucoup à la forme et il y a beaucoup d'intérêt aussi à s'intéresser à la forme. Mais voilà, quand tu fais un exposé sur, je ne sais pas, la Seconde Guerre mondiale, c'est peut-être plus intéressant d'aller vérifier les faits, les dates et les implications géopolitiques. De s'assurer que tu as bien rédigé la chose. Ça dépendra des matières, évidemment. Bref, il y a un intérêt, je trouve, à apprendre aux gens comment l'utiliser correctement, à bien formuler des prompts pour pouvoir se concentrer sur là où l'humain peut apporter plus de valeur, sur l'intelligence que l'humain peut apporter, qu'une intelligence artificielle sera toujours limitée.
Je trouve très optimiste. Moi, je pense que la plupart des étudiants vont faire ChatGPT copier-coller et puis ils vont prendre leur téléphone ou allumer leur PlayStation et puis ça sera fini, quoi.
Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Mais je trouve ça intéressant d'apprendre à utiliser la technologie. Et donc, du coup, tu vois, il y a un certain génie à chercher à faire le moins d'efforts possible en utilisant les technologies autour de toi.
Tu traînes toi avec Jérôme, toi, Marion. Avec Jérôme, l'autre Jérôme, ton Jérôme.
on n'est pas ensemble pour rien. Non, mais c'est vrai, il y a un certain génie à faire le minimum d'efforts. C'est ces personnes-là aussi qui vont développer des outils et des technologies qui vont nous permettre de faire des tâches ou des jobs qui sont plus intéressants et plus enrichissants.
Si tu sais le nombre de fois que j'ai eu dans mon carnet de parents d'élèves, Patrick fait le minimum d'efforts. S'il s'appliquait un peu plus, il pourrait avoir plus que 12. Donc, tu as raison, c'est des gens très bien qui font ça. Très, très bien.
Il est trop tôt.
Mais, Mais disons que je suis d'accord que... Alors, il y a la question de... Est-ce qu'il faut savoir le faire sans les outils pour ensuite vraiment le comprendre ? Je crois que la question est légitime. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut savoir faire 1 plus 2 et 12 divisé par 3 à la main avec, avec le crayon avant de commencer à utiliser la calculatrice ? Je pense qu'il y a une valeur là-dedans, effectivement. Mais
oui,
sur ChatGPT...
En même temps, si ton enfant arrive à utiliser ChatGPT avant d'arriver à faire ce genre d'addition, chapeau, hein.
Mais c'est pas dur, ChatGPT, si tu peux taper la phrase, il te... C'est ça qui est le changement de paradigme, c'est que là où... Bon,
à quel âge t'apprends à faire des opérations ?
J'en sais rien, le mien, il n'y est pas encore, donc... le mien, il fait déjà 3 plus 2,
tu vois. T'apprends ça en grande section.
Ouais,
t'apprends ça en grande section. Ma fille y est, donc je peux te dire, t'apprends ça en grande section.
C'est quel âge ? Moi, je suis en Finlande, c'est pas la même... C'est quel âge, grande section ?
5 ans, grande section, c'est 5 ans.
5 ans, très bien. Bon, ben voilà, on est à peu près au même truc. Mais, donc, il ne sait pas encore lire, ok. Mais, effectivement, intégrer ChatGPT, au-delà de la question du truc de base, c'est vrai qu'en Carta, tu voulais aller recopier mot pour mot l'article. Il faut que... l'espoir, c'est que les professeurs connaîtront ces outils et repéreront une utilisation vraiment paresseuse de l'outil qui est juste un copier-coller et donc pourront sanctionner ou mettre simplement une mauvaise note. Peut-être que le truc, ça sera « bon, bah, t'as juste recopié ChatGPT, t'as deux ». Si tu as développé un argumentaire intéressant et il faut... Le truc, c'est qu'il faut qu'on puisse repérer si l'argumentaire est celui de l'élève ou pas, peut-être qu'il faudra lui faire développer son argumentaire en classe, à l'oral ou régulièrement tester ce genre de choses. Mais si on arrive à repérer qu'il l'ait construit avec ChatGPT ou autre chose, bon, peut-être qu'il y a des questions d'originalité, etc. Mais oui, je pense que... Et puis, les autres arguments, on pense toujours à la triche. Et c'est vrai que c'est un argument important. Mais les autres arguments que développe Rousse dans l'article sont importants aussi. D'une part, comme tu le disais, Jérôme, on ne peut pas bannir, c'est compliqué. Mais surtout, il faut apprendre à l'utiliser parce qu'ils seront partout, ces outils. Donc, il faut apprendre à les utiliser de toute façon, à les comprendre, à savoir comment ils fonctionnent, etc. Donc, bon.
Et apprendre, je pense aussi, les limites de l'IA.
Ouais,
c'est vrai qu'aujourd'hui, comme c'est l'ordinateur qui le dit, c'est vrai. Donc, il faut aussi expliquer aux enfants que ce n'est pas forcément vrai qu'une IA, ça a des limites, que c'était... Par le fait comment ça fonctionne, en fait. Et que ça ne sera pas la vérité toujours absolue.
Ouais. Comprendre les limites de ces outils aussi, c'est hyper important. Et donc, il faut les intégrer dans la... Mais c'est ça qui est différent un petit peu par rapport... On fait souvent l'exemple de la calculatrice. La calculatrice, bon, bah, tu lui demandes combien font 160 divisé par 4. Il va te répondre et c'est bon. Là, c'est un autre type d'apprentissage un peu plus critique. Et c'est d'autant plus important de bien le faire, quoi. Entre parenthèses, ChatGPT, non seulement, comme on le savait, Microsoft va intégrer ChatGPT à tous ses outils, ils vont ouvrir Azure OpenAI à beaucoup plus de gens. Azure OpenAI, c'est un service, en fait, c'est IA as a service sur le cloud Microsoft. Mais en plus de ça, OpenAI est en train de réfléchir à faire une version payante de ChatGPT qui serait plus disponible plus facilement, en fait. Parce que là, elle est souvent surchargée. Mais je suis dans la bêta de... Enfin, j'ai demandé un accès à ce truc-là. Je vous dirai si ça fonctionne ou pas, si je rentre.
En fait, c'est intéressant parce que ça pose la question du modèle économique. Et aujourd'hui, il n'y a pas de modèle économique.
Ouais.
Et en fait, on fait souvent la comparaison avec Google. Google, ça ne coûte rien, en fait, de faire une recherche. Pour Google, ça coûte rien. ChatGPT, ça coûte, à chaque fois que vous utilisez ChatGPT, ça coûte quelques centimes parce que ça tourne sur le cloud de Microsoft.
Bah, c'est pas tout à fait vrai ce que tu dis. Ça coûte à Google le fait de faire tourner les serveurs et ils le payent avec la pub. Là.
Oui, non, mais ce que je veux dire, ça coûte pas grand-chose, en fait. Ça coûte une fraction de centimes, en fait, comparé à ChatGPT qui coûte quelques centimes pour le faire. Et donc, en fait, aujourd'hui, pour le grand public, pour une utilisation grand public, alors là, c'est bien parce que ça démocratise et puis ça leur permet aussi de tester le produit. Il n'y a pas de modèle économique pour une utilisation grand public encore. Et c'est pour ça qu'ils vont lancer la modèle pro. Donc, ça pourrait être quelque chose où on fait une version gratuite pour pousser les gens à avoir la version payante.
Exactement. Et puis ensuite, le fait de faire fonctionner ça sur as a service, parce que toutes les publications qui vont utiliser des IA pour écrire leurs journaux, bah, elles vont avoir besoin d'y accéder. Et ce n'est pas par l'interface ChatGPT qu'on va faire ça. Ça pourra être par Azure OpenAI, justement. Et ça va coûter de l'argent. Entre parenthèses, ChatGPT 4 arrive. Là, on en est à 3.5 à peu près. Et d'après les premiers tests, non seulement il a genre 500 fois plus de données sur lequel il a été entraîné. C'est le cœur du fonctionnement. Mais l'un des premiers tests, selon certains, c'est il peut écrire un livre de 60 000 mots sur une simple requête. Genre, on lui dit, écris un livre sur tel sujet, et ben il peut écrire un livre entier, là où aujourd'hui, c'est quelques paragraphes. Donc, bon, ChatGPT, c'est ce qui arrive demain. Hein. C'est déjà en test maintenant, c'est en cours d'arrivée, c'est même pas en développement. Bref, on en reparlera à ce moment. MacBook, les Mac, une nouvelle vraiment surprenante, même si certains la prophétisaient depuis longtemps. Apple serait en train de développer des écrans tactiles pour ses Mac. Pourquoi je dis que c'est surprenant ? Parce que l'argument d'Apple contre les écrans tactiles sur les ordinateurs, ça a toujours été que ce n'est pas ergonomiquement pratique. Quand on est assis à un bureau ou même avec l'ordinateur sur les genoux, bon, sur les genoux, c'est peut-être un petit peu moins dur, mais lever le bras pour toucher l'écran, bah, ce n'est pas pratique. Sauf que sur PC, c'est visiblement assez populaire, c'est un argument marketing aussi, et puis ça pourrait servir à Apple pour uniformiser ses OS, un petit peu plus encore qu'ils ne le sont aujourd'hui, donc intégrer des fonctionnalités tactiles au Mac permettrait de mieux faire tourner les applications développées pour iPhone ou iPad. Bref, la date de sortie de ces Mac avec écran tactile, ça serait, selon Mark Gurman de Bloomberg, je parlais tout à l'heure des gens qui savent des choses ou qui amènent de la valeur ajoutée, qui est privilégiée par des magazines comme Bloomberg. Ben, Gurman est certainement dans le domaine de la tech l'une des personnes qui apporte le plus de valeur ajoutée. En l'occurrence, il dit que les premiers MacBook Pro avec écran tactile pourraient arriver en 2025. Alors, ce n'est pas demain non plus, mais ce n'est pas dans 10 ans. Deux questions. Est-ce que vous y croyez ? Et peut-être que je vais poser la question à Mario, parce que... À Marion. C'est un compliment venant de moi. À Marion, parce que tu es une spécialiste des interfaces utilisateurs. Est-ce que ce n'est pas une hérésie, un écran tactile sur un ordinateur portable ou non ? Et puis, est-ce que tu y crois, du coup, à cette rumeur ?
Pour être honnête, il y a quelques années, je t'aurais dit c'est ridicule, ça marchera absolument pas. Et en fait, je suis de moins en moins, je suis de plus en plus ouverte à ça, tout simplement parce que les usages évoluent. Ben oui, parce qu'en fait, même moi, je m'aperçois que entre mon iPhone, mon iPad et mon Mac, je me retrouve à vouloir toucher l'écran de mon Mac parce que j'oublie qu'il est pas tactile et que je sais plus sur quel appareil je suis. Et donc, intuitivement, je vois un écran, je veux toucher l'objet pour zoomer dessus, pour le bouger, etc. Moi, je travaille avec des outils de design type Figma où tu pourrais manipuler ce type d'objet et ça serait beaucoup plus pratique qu'un trackpad ou une souris. Et en fait, je m'aperçois que moi-même, je me retrouve sans faire exprès de temps en temps à mettre le doigt sur l'écran parce que j'oublie que c'est un ordinateur. Donc, en fait... je pense que les usages ont beaucoup évolué ces dernières années. On voit que toute la jeune génération, c'est beaucoup plus intuitif pour eux de toucher directement l'écran montrant l'objet que d'interagir avec un clavier, une souris ou un trackpad. Donc, je trouve pas ça idiot. Alors après, il y aura plein d'implications du type pour que l'utilisabilité soit garantie. La taille des boutons, etc., ou des éléments à manipuler, parce que c'est vrai que les interfaces ordinateurs sont pas encore adaptées, pas toutes. Mais en termes d'affordance, l'affordance, c'est la capacité d'un objet ou d'un système à évoquer sa propre utilisation. Bah, en fait, pouvoir directement toucher l'objet sur un écran, c'est le plus évident. Et donc, du coup, bah, c'est vrai que c'est le plus intuitif, finalement, quand on y pense. Après, que ça soit optimisé pour ça, bah, on n'y est pas encore complètement.
D'accord. Mais je t'avoue que je vais dire surpris, pour ne pas dire déçu. Moi, étant très old school, tu vois, je me disais, non, Marion va défendre l'idée qu'un écran... Mais c'est intéressant, du coup. Il faut se rendre à l'évidence que les usages évoluent. Et en plus... Bon, il y a cet aspect que j'ai évoqué aussi. Ça arrangerait bien Apple de pouvoir rapprocher. Moi, je ne pense pas qu'ils vont tout à coup faire une fusion entre les deux OS. Enfin, on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait, mais rapprocher encore un petit peu plus iOS et iPadOS et macOS. On a vu que ce rapprochement a déjà commencé hein, depuis longtemps avec l'inclusion des applications et des apps iOS sur Mac. Et c'est vrai que là, bah, pour que ça fonctionne bien, un écran tactile, ça pourrait aider, moi, même si moi, j'aime bien le faire au trackpad. Est-ce que tu crois, du coup, Jérôme, qu'il y a une raison plus pratique, genre, bah, ça nous permet de plus développer l'écosystème, ou ça permet de donner plus de comment dire, relevance en français?
Alors, juste avant de répondre à ta question, oui, je vais te décevoir encore plus. C'est que moi, j'ai un écran tactile depuis des années, hein, parce que j'ai un Chromebook Pixel qui est tactile. Au début, je me disais, c'est un accessoire, enfin, c'est un gadget, je n'utiliserai jamais. Et en fait, comme Marion, quand j'utilise un autre ordinateur, je vais toucher l'écran.
Ah oui.
Et en fait, c'est des réflexes. Et tout à l'heure, j'essayais de me redire, de dire pourquoi j'utilise l'écran tactile, et je n'arrivais pas à le dire, en fait. J'utilise l'écran tactile, c'est naturel pour moi, sur certaines utilisations, d'utiliser l'écran tactile. Et notamment, je vois ma fille, qui donc a 6 ans, elle utilise que l'écran tactile. Donc ouais. Les jeunes aujourd'hui, ils sont tactiles et utiliser une souris, utiliser un trackpad, ben, ça ne les intéresse pas. Et voilà. Donc, il y a vraiment un marché. Et je pense que pour Apple, c'est aussi ça, en fait. C'est de se dire, pendant longtemps, l'écran tactile, c'était un peu un gadget. Et aujourd'hui, c'est de moins en moins un gadget. Enfin, ça reste un gadget, faut être honnête. Mais c'est un gadget qui est utile. Mmh. Et ils se disent peut-être, hein, je ne sais pas, je ne suis pas dans le cœur de leur réflexion, mais il y a les jeunes générations qui arrivent, qui ont été biberonnées à l'iPhone et à l'iPad. Et qui vont peut-être un jour acheter un Mac, qui ont peut-être un Chromebook, parce que leurs parents ont acheté un Chromebook qui est tactile, est-ce qu'ils vont aller sur un Mac qui n'est pas tactile? Je pense que c'est aussi un peu ça, le côté de la réflexion, c'est de se dire, il faut rester un peu dans l'air du temps, et puis de toute façon, ça ne dérange personne, quoi. Si ton Mac il est tactile, tu n'as pas envie d'utiliser, ben, tu ne l'utilises pas. Je n'ai jamais compris l'argument, en fait, de dire, il ne faut pas que ça soit tactile. Si les gens ne veulent pas l'utiliser, ils ne l'utilisent pas, à part peut-être le coût, mais je ne sais pas si c'est un coût très important sur un Mac Pro. Non, ça va pas changer beaucoup.
Le coût va pas évoluer. C'est peut-être effectivement plus juste une question d'usage. Oui, vas-y.
Pour rebondir sur ce que Jérôme disait, ça n'embête personne le tactile, sauf dans le cas de la touch bar, cette espèce de touch bar tactile qui est de la plaie de l'humanité, personne n'utilise, ouais. Et qui, merci. Apple a avoué son échec et l'a fait disparaître, mais moi j'ai encore un Mac avec touch bar avec les boutons qui changent, et je ne sais jamais où,
ma où taper.
Voilà, je me plains, mais bon, ça va, j'arrive à vivre avec.
C'est sûr que c'était une expérience qui n'a pas vraiment réussi. Mais c'est vrai que, alors d'une part, on n'est pas obligé d'utiliser l'écran tactile nous-mêmes, et puis on n'est pas obligé d'implémenter les usages de manière, enfin, de l'utiliser pour tout, quoi. On a quand même le trackpad, et ça peut être pratique quand c'est pratique, mais on n'est pas obligé de le faire pour tout. Il y a cette uniformisation des développements qui peut être bonne pour Apple, mais je crois que vous m'avez convaincu, c'est aussi et peut-être surtout une question d'usage et de génération. Et c'est un truc qu'évoque Gurman d'ailleurs. C'est assez cohérent de se dire que bah, aujourd'hui, on en a trouvé des usages utiles. Et puis surtout, les gens ont grandi de manière différente, quoi. Donc Apple peut imaginer qu'ici à 2025, ça sera un petit peu plus nécessaire pour eux. Bon. Très bien, donc revirement à 180 degrés pour Apple, c'est pas la première fois, mais c'est pas la première fois, et on verra ce que ça donne. Autre chose qu'évoquait la chatroom aussi, il faut dire que souvent quand Apple implémente quelque chose qui existe depuis longtemps ailleurs, ils le font mieux que les autres, souvent, hein, pas toujours, mais souvent. Et donc peut-être que l'utilisation, même si j'ai du mal à imaginer une utilisation tactile complètement différente sur un MacBook de ce qui existe déjà, mais qui sait, peut-être que ça sera mieux fait. Quoi d'autre? Bah écoutez, je crois que on va faire une toute petite pause pour vous dire à quel point j'aime mes auditeurs. Il y en a un qui a laissé un commentaire sur iTunes. Il y a eu plusieurs commentaires très élogieux sur iTunes. Je vous remercie tous très chaleureusement. Et c'est Sonchani qui dit « Le Rendez-vous Tech a su s'imposer comme une référence francophone dans le domaine et c'est plus que mérité, merci. Patrick est très sérieux dans le traitement de ces sujets. » Sur le fond peut-être, sur la forme, je suis moins sûr. Il les traite de façon approfondie avec ses chroniqueurs. Pas de fanboyisme, si un sujet est couvert, c'est qu'il a de l'importance, que ce soit positif ou négatif. Patrick se fait régulièrement l'avocat du diable, si souvent même qu'il a son jingle pour les situations, pour ces situations. Le podcast est d'une régularité exemplaire, c'est aussi pour ça que je l'écoute depuis aussi longtemps. À l'époque, on essayait d'expliquer c'est quoi Twitter. Oh là là. Oui, c'est vrai que ça fait bien longtemps qu'on
ne rajeunit pas. C'est Twitter.
En somme, imaginez un Léo Laporte avec une écharpe, beau compliment, ou un Marcus Brownlee dans la campagne finlandaise. Ouh là là, très beau compliment, longue vie au rendez-vous tech. Merci à toi, Sonchani, et merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires sympathiques sur iTunes ou ailleurs, hein, Spotify, etc. Je ne sais plus si on peut en laisser sur Spotify, mais si vous le faites, c'est très gentil. Et puis bien sûr, patreon.com/rdvtech si vous voulez soutenir l'émission, si vous voulez devenir un patriote et vous aussi être encore plus svelte, encore plus beau et encore plus intelligent. C'est absolument garanti, sauf que ce n'est pas tout, tout garanti. Vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech et soutenir l'émission. Un grand, grand merci à vous tous. Je le rappelle, hein, mais ça donne des bonus sympas comme l'émission sans pub, les contenus supplémentaires et le plaisir, la fierté d'être patriote. Merci à tous, patreon.com/rdvtech.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et on passe à la deuxième partie, qui est le reste de l'actualité. Alors, le reste de l'actualité, on devait bien parler un petit peu de Twitter quand même. Ça faisait quoi, 2 semaines ? Le truc, vraiment... Il y a quelques petites news, genre Twitter veut mettre aux enchères les noms d'utilisateurs qui posent différents soucis. Il y a le fait que les bureaux à l'international de Twitter ont visiblement été fermés parce qu'ils ne payent plus leur salaire, parce qu'ils ne payent plus leur loyer. Tout simplement, ils ont arrêté de payer. Donc, les employés sont devenus employés à distance, tout à coup, comme ça, ok. Mais surtout, il y a le truc un petit peu scandaleux de la semaine dernière, c'est que du jour au lendemain, les applications tierces de Twitter, genre Twitterific, Tweetbot, tout ça, ont arrêté de marcher. Juste arrêté de marcher parce que l'API vers Twitter ne marchait plus. Et il n'y a eu ni préavis, ni communication, ni quoi que ce soit. Et à ce jour, là, ça fait presque une semaine que les applications ne marchent plus. Twitter n'a rien dit officiellement sur le sujet. On a appris depuis que c'était effectivement intentionnel. C'est pas qu'il y a un truc qui a été cassé ou que l'API ne marche plus pour une raison aléatoire. Il y a effectivement une intention de Twitter, a priori parce que les pubs ne s'affichent pas sur les applications tierces. Donc, ça réduit, selon leurs calculs, les rentrées. Je ne suis pas convaincu parce que ça ajoute des utilisateurs aussi. Oui, des utilisateurs pas monétisés, mais les gens qui utilisent des applications tierces, ils en sont souvent très amoureux. Ils n'aiment pas du tout l'application de base. Moi, j'utilise l'application de base, ça ne me dérange pas. Mais bref, ce qui est vraiment notable, c'est de voir à quel point la chose a été faite salement. Alors, on a l'habitude que Elon Musk fasse les choses avec peu de respect. Mais alors là, vraiment, couper une API pour un service aussi important que Twitter sans prévenir... Il n'a même pas dit « dans 2 semaines, on va couper ». Genre, ça serait super rapide, 2 semaines. On dirait normalement, genre, à la fin de l'année, on va couper. Ou, là, je ne sais pas, dans 6 mois, dans 2 semaines, on va couper. Non, non seulement il n'a rien dit, ils n'ont rien communiqué, mais ils ne l'ont toujours pas fait une fois que ça a été coupé. Et donc, les développeurs sont complètement démunis et assez énervés, il faut le dire, et on peut le comprendre, face à cet événement. Encore une fois, on a l'habitude que Elon Musk fasse les choses assez salement, mais là, j'avoue que même moi, je suis étonné du manque de... c'est dire manque de respect, c'est un petit peu, comment dire, c'est presque une platitude. Mais enfin, c'est là, pour le coup, c'est une gifle au visage des gens qui développent. Enfin, je sais pas si ça vous fait le même effet, mais moi, je suis horrifié, quoi, par ce truc encore plus, peut-être, que d'autres trucs. Bon, pas encore plus, mais clairement, par rapport à d'autres trucs qui sont passés sur Twitter et dont les gens se plaignaient, il y avait des trucs scandaleux, mais ça, c'est au niveau des trucs vraiment horriblement irrespectueux, quoi.
Moi, ouais, je suis c'est pas... assez...
Pardon, vas-y, Jérôme.
Je disais juste que moi, je suis pas horrifié, je suis juste habitué, en fait.
Ouais. C'est du musk, quoi. Mais enfin, là, quand même. Marion, t'allais dire quoi ?
Oui, non, ben, c'est triste, en fait. Je trouve ça juste triste parce que ça montre un manque de respect pour une communauté qui s'est créée autour de Twitter et qui, mine de rien, a respecté Twitter et a contribué au succès de Twitter et s'est tourné le dos à toute une communauté d'ingénieurs et qui a quand même permis le succès du réseau social. Donc, ouais. Je trouve ça juste un peu triste.
Déjà qu'ils ont été...
Parce qu'il faut bien dire que les gens qui utilisent ces outils, c'est ce qu'ils appellent des power users. C'est vraiment les gens qui utilisent beaucoup Twitter. Et donc, c'est un peu le cœur de cible, enfin, le cœur de l'activité de Twitter. Alors, c'est très peu de personnes, hein, je pense, qui utilisent ces outils comparé aux 200 millions de personnes qui sont sur Twitter tous les jours ou tous les mois. Mais c'est vraiment, ouais, c'est des utilisateurs très actifs qui sont là depuis longtemps et qui... Voilà, c'est vrai qu'il y a l'histoire, est-ce qu'il ne rapporte rien à Twitter ? Donc, on peut comprendre aussi la volonté de monétiser les utilisateurs, mais c'était un peu une sorte de contrat, en fait, un peu non écrit, quoi. Voilà. Vous êtes sur Twitter, vous participez à la richesse de Twitter, et on vous laisse utiliser vos applications tierces sans vous monétiser.
Mais tu préviens, c'est un écosystème. Enfin, c'est...
Oui, non, mais bien sûr. Ah non, mais bien sûr.
Moi, je suis... On m'a rappelé dans la chatroom la manière d'exprimer ce que je ressens la plus appropriée, que je j'utilise d'ailleurs régulièrement, c'est que je suis choutré. Je suis à la fois choqué et outré. Mais c'est vraiment ça, je suis choutré. C'est le genre de truc qui... Bon, bref. C'est du Elon Musk. Faudrait pas être surpris. Le Galaxy S23, les Galaxy S23 arrivent et on a eu des leaks. Donc, ils arrivent, ils seront présentés en février. Est-ce qu'il y a des choses étonnantes dans cette nouvelle fournée de Galaxy S23 ? Le plus gros, le S23 Ultra, devrait avoir un appareil photo avec un capteur 200 mégapixels. C'est beaucoup de pixels. Mais à part ça, je ne sais pas s'il y a grand-chose de vraiment surprenant dans les leaks, en tout cas. Il y a quoi d'autre ? C'est tout ? C'est ça le gros truc, hein. 200 mégapixels, il y aura trois modèles, comme d'habitude, bon, toutes les caractéristiques de ce type-là. Netflix va streamer le SAG Awards. Est-ce que vous savez ce que c'est le SAG Awards ? Est-ce que vous savez ce que c'est le SAG ?
Non, je l'ai appris en lisant l'article.
Screen Actors Guild. Une sorte de César des acteurs. Ce qui est vraiment intéressant, je ne l'avais pas mentionné la semaine dernière, mais visiblement, Netflix aurait aussi comme projet de mettre des vidéos de sport, d'entraînement, de training, de mise en forme. Là, ils cherchent les streaming... De quoi, pardon ?
Pas avec Apple ?
Non, c'est leur truc à eux. Enfin, c'est des rumeurs. Mais justement,
non,
Apple
c'est avec
le
Nike,
fait aussi.
Pardon. C'est avec Nike. Ils ont signé un contrat avec Nike, pardon.
Avec Nike, ouais. Ils vont publier, enfin, streamer le Screen Actors Guild. Ils cherchent vraiment à se diversifier et c'est des trucs qui peuvent être intéressants. Enfin, le SAG, je me demande qui va regarder le Screen Actors Guild Award si on n'est pas déjà un acteur qui fait pas du SAG. Ça a l'air d'être le genre de truc très inside baseball. Mais l'entraînement aussi, je me dis, il y a des choses encore à faire. Là où c'est intéressant sur le Screen Actors Guild, c'est le live, le fait de le faire en live. Je ne sais plus où j'ai vu... on me dit qu'elles y sont déjà, les vidéos d'entraînement. OK, très bien. Quelqu'un va streamer, c'est peut-être Netflix, l'Eurovision. Je crois que c'est Netflix qui va streamer l'Eurovision en live en 2024 ou un truc du genre. C'est les événements live qui sont en train d'arriver sur les plateformes de streaming. Quelques news en... Oui,
juste, pardon, Patrick.
qui est encore plus intéressant, c'est que cette année, ça ne sera pas streamé sur Netflix parce que la technologie n'existe pas. Ça sera streamé sur YouTube, sur la chaîne Netflix de YouTube. Enfin, sur la chaîne YouTube de Netflix, pardon.
Tu parles de l'Eurovision ?
Non, du SAG, là, du SAG.
Ah oui, du SAG, d'accord. Parce qu'ils n'ont pas encore...
Pas... Ouais, ouais. Ils n'ont pas la technologie pour faire du live streaming. Et donc, ça sera sur la chaîne YouTube de Netflix, ce qui est assez rigolo, finalement. Ils vont envoyer des...
Mais c'est justement ce que je me posais comme question. J'ai pas du tout cet usage de suivre un live sur l'application Netflix.
Bah, ça n'existe pas encore, donc forcément.
Bah oui, donc je me demande. Voilà, on sait que le live et la VOD, c'est quand même pas la même chose hein, en termes d'expérience et d'habitude.
C'est sûr, mais quel plaisir de découvrir les épisodes au moment où ils sont publiés, surtout quand ils arrivent chaque semaine. Tout le monde va sur Twitter, ou Mastodon, plutôt sur Twitter, soyons honnêtes. Et tu vois, donne des impressions, machin. Faire le truc en live, d'ailleurs, l'Eurovision a gagné beaucoup en popularité ces dernières années grâce à l'internationalisation des communications autour des trucs en live. Moi, je pense qu'il y a un coup à faire pour Netflix et d'autres. On parlait de sport tout à l'heure chez Amazon ou chez Canal. Tu vois, c'est des trucs que les gens... Il y a certains trucs que les gens veulent regarder en direct. Alors, pas pour tout, hein.
Ah oui, je suis d'accord avec toi. Ma question est plus sur Netflix pour faire ça versus Twitch ou versus une autre plateforme où on a plus l'habitude de regarder du live.
Non, mais tu l'as dit, il n'y a que Twitch. Et Twitch, ce n'est pas du tout pour ce genre de contenu. Donc moi, je crois que Netflix, justement, peut prendre peut se transformer. Évidemment qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser Netflix pour ça. Mais s'ils commencent à le faire, parce qu'il n'y en a pas sur Netflix aujourd'hui, mais s'ils commencent à le faire, peut-être que, tu vois, tout le monde se dira « Ah, jeudi, on est tous sur Netflix pour regarder la finale de l'Eurovision et tout le monde est sur Twitter à commenter en même temps. » On retrouve cette magie de cette technologie antédiluvienne qui s'appelait la télévision. Souviens-toi, à l'époque d'Encarta, Marion, il y avait ça aussi. Et ça marchait bien.
C'est vache. Bien envoyé, mais c'est vache.
Par contre, il n'y avait pas Twitter. Donc
il n'y avait pas encore Twitter. Non, mais c'est pour ça. Là, ça revient grâce à Twitter. Tu sais, moi, je connaissais ça aussi. Hein. Peut-être même d'autres trucs avant. Comment elle s'appelait l'encyclopédie ? C'était Microsoft Encarta.
C'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais.
Et on s'est changé. Les CD discrètement, tu vois, qui étaient... Oh, tu as tout. Il y avait même des petites vidéos, genre en format timbre-poste. Et c'était fou d'avoir ce genre de trucs disponibles partout.
C'était le moment nostalgie du rendez-vous tech.
Non, mais c'est vrai. C'est le truc que les jeunes ne connaissent pas à l'époque. C'est un truc que je dis souvent. À l'époque, si tu ne savais pas un truc et que tu n'avais pas un quid ou une Encarta ou une encyclopédie à la maison, eh ben, tu ne savais pas. Si tu te posais une question, si tu n'avais pas la réponse, si tu n'avais pas les parents, les amis qui pouvaient te répondre, qui étaient là pour la soirée, bah, c'est juste que tu ne savais pas. C'était terminé, la conversation s'arrêtait là.
Moi, ce que je faisais, c'est que j'allais chez les copains qui avaient Encarta pour piquer leur Encarta et en profiter.
Et les riches avaient des encyclopédies et les trucs genre, les trucs de riches pauvres, c'était 2 volumes. Les trucs de riches, c'était genre 10, 15 volumes. Quoi. Et bref. On conclut en disant la Chine a réactivé, enfin a autorisé Didi à remettre ses applications sur l'internet chinois. Si vous savez pas ce qu'est Didi, c'est entre autres une app de VTC, mais ils font beaucoup de choses. C'est un signe de plus que la Chine a décidé de faire marche arrière dans son attaque contre la tech. Peut-être qu'ils ont atteint leur objectif, mais il semble aussi que les impacts économiques aient été trop importants et du coup il semble réouvrir un petit peu les vannes de manière contrôlée, mais pour le développement des grosses entreprises tech et gaming d'ailleurs. C'est important, hein, parce qu'ils avaient vraiment fermé les vannes. On avait parlé d'Alibaba, Jack Ma, tout ça pendant un certain temps, ça doit faire 2 ans. Et là, ils semblent vraiment faire marche arrière. L'autre truc qui fait marche arrière, ou plutôt qui recommence à faire marche avant, c'est les valeurs des crypto-monnaies qui montent de 20 à 25% entre Bitcoin, Ether, etc. Donc, depuis le début de l'année, ça remonte un petit peu, à voir si ça durera. Mais c'est un changement important aussi. Bon, je ne suis pas certain que la confiance revienne dans les crypto-monnaies non plus, mais on continuera à suivre ça. Et voilà pour notre émission. Merci Marion, merci Jérôme d'avoir été en ma compagnie. C'était éclairant, comme toujours. Si on veut un petit peu plus de vous sur Internet, où peut-on aller ? Marion, Twitter ou moins Twitter ?
Oui. Alors, vous pouvez me retrouver sur Twitter au pseudo Aizea Design ou tous les mardis matins sur Twitch sur la chaîne Naotech pour le mug, pour l'actualité de la tech.
C'est à quelle heure, pardon ?
C'est à 8h, tous les mardis. Alors, ah, c'est à 8h tous les jours de la semaine, mais moi,
mais
je fais le mardi.
Avec Marion, le mardi, oui, c'est ça. Et Jérôme fait 3 jours, c'est ça ? Que je dise pas de bêtises ?
Oui, c'est ça, ouais. Il fait le lundi, le mercredi et le vendredi. Et Guillaume fait le jeudi.
Très bien. Sur la chaîne Naotech HQ sur Twitch.
Oui.
Jérôme, la newsletter et quoi d'autre ?
Alors, la newsletter cafetech.fr, voilà, tous les matins à 7h30. Et sur Twitter, je suis... Ah bah voilà. Avant 8h, donc vous pouvez lire la newsletter et puis après, allez regarder
c'est
le Twitch.
C'est ce que j'allais dire. Et... genre, attends, moi, je vais... ma newsletter, je vais la sortir à 7h22.
C'est ça. Une surenchère. Et puis sur Twitter, je suis sur Jérôme Marin SF, comme San Francisco, parce que j'ai passé beaucoup de temps à San Francisco. Et voilà.
Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Pour ma part, c'est NotePatrick un petit peu partout, vous le savez. J'ai aussi une newsletter. D'ailleurs, cette semaine, il y aura des articles intéressants. Et je vais vous mettre un lien vers une vidéo de Science Étonnante qui explique comment les IA génératives inventent les images. Vraiment le processus informatique, mécanique, technique, qui est hyper intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Donc, je vous mettrai ça en lien en bonus dans la newsletter. Vous pouvez vous abonner sur notepatrick.com. Vous pouvez retrouver les liens vers tout ce que je fais. Le Discord pour discuter avec des gens sympas, le Twitch pour regarder en live, le YouTube pour regarder en différé si vous le souhaitez, Twitter, etc. J'ai même un compte Mastodon, c'est toujours notre Patrick. Donc vous pouvez voir tout ça et bien sûr patreon.com/rdvjeux. Le lien est aussi dans les notes de l'émission pour soutenir l'émission. Merci à tous ceux et toutes celles qui le font. Merci à tous de nous écouter. Et on revient... Ah oui, on aura l'after show pour les Patriotes où je vais vous lire un petit peu de mes aventures en IA. Il y avait des trucs vraiment drôles, vous allez voir. Mais sinon, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Je vous fais de grosses bises et je vous dis à la semaine prochaine. Ah, dernière chose, et j'ai fini, je promets. Je vais sans doute faire un AMA demain, mercredi, sur Twitch pour répondre à vos questions. Il sera peut-être dans le flux quelques temps après. Vous aviez l'air d'apprécier. Donc, retour. J'ai plein d'énergie après mes vacances avec ma femme en duo. Donc, je fais un petit AMA demain. Donc, le résultat sera peut-être dans votre flux, peut-être la semaine prochaine, quelque chose comme ça. Et sinon, donc, on se retrouve pour l'émission classique dans une semaine. Ciao à tous et à toutes. Bisous.
Et
je mets même le générique.